Donc, je suis très content d'avoir été invité ici. Moi, je suis un pâquerettiste professionnel. Donc, je passe une grande partie de mon temps à explorer la complexité des arguments décroissants et à passer en revue leurs critiques, non seulement dans la littérature française, mais plus précisément dans la littérature anglaise. Et je fais ça à peu près depuis 2016, l'année où laquelle j'ai commencé mon doctorat. Donc, je vais partager ici quelques expériences. Donc, ouais, lynchage collectif, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Moi, j'avais parlé de tabassage conceptuel, mais on parle vraiment de la même chose. Donc, c'est un petit peu le rite de passage, hein. Pour être pris sérieusement en économie ou en politique, il faut forcément avoir tabassé une fois les décroissants, hein. C'est un petit peu comme au collège, vous savez, les tyrans, pour se faire respecter par le groupe, il faut aller victimiser les plus faibles. Donc ça, il y a beaucoup de ça, mais ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il y a un grand fossé en fait structurellement sur la façon dont un article qui fait l'apologie de la décroissance va être écrit et la façon dont une critique va être écrite. Mais avant ça, on va quand même se faire un petit peu plaisir, hein. Un petit snapshot de ma liste personnelle d'insultes. Fleur en a trouvé des pas mal et pâquerettistes et va être dans le top 3, c'est absolument génial. Mais on voit qu'il y a vraiment un développement d'un vocable insultant. Ça, Fleur l'a bien montré. C'est la même chose en anglais. Alors, on pourra discuter un petit peu après de la différence. Il y a paradoxalement en France, il y a ce tabassage conceptuel où rien ne passe, alors qu'en anglais, ça s'est inversé. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, j'ai fait une analyse des articles qui ont été publiés en 2020-2021. En 2020, il y en avait 206 en anglais sur la décroissance. En 2021, il y en avait 180. Et là, vraiment, on a un équilibre en fait pour et contre. Alors qu'en France, quand on regarde les médias, il y a énormément de petits articles contre et de temps en temps. Dans un moment de générosité, Le Monde nous donne un petit coin de page pour pouvoir écrire un truc un peu sérieux. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un est invité à parler de décroissance dans les médias français, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié le sujet, qui ne lit pas les ouvrages de sujet et qui, en principe, est contre. Donc moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Lye Phillips, qui a publié un livre en 2015 où il insultait les décroissants. C'est un livre dédié à insulter les décroissants et il y a une liste de 30 insultes qu'il a créées, donc la plus belle, Collapse Porn Addict. Donc des accros au porno de la collapsologie. Donc très très beau, mais pareil, ça montre bien qu'il y a cette idée un petit peu en anglais, mais la différence c'est qu'en français, peut-être il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu à ces articles. Alors qu'en anglais, vu que dans plein de pays, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis maintenant, et bien la décroissance en fait a gagné en popularité alors que c'était un petit peu le contraire en France. Et bien il y a énormément de gens qui se sont mobilisés pour écrire des réponses, des choses comme ça. On voit ça sur Twitter, hein. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur Twitter depuis la publication de ma thèse pour justement essayer d'observer l'effervescence autour du concept de décroissance. Et il y a voilà, des grosses critiques. Donc là, je vous ai mis voilà, des critiques représentatives, hein. Bjorn, Lomborg, hein, qui représentent un petit peu ce que Fleur parlait, le cliché écologique, la décroissance n'arrivera pas à faire face à la crise climatique. Il y a Branko Milanovic, hein, l'économiste des inégalités, lui qui pour la décroissance, une recette pour la misère. En bas à droite, il y a Alex Trembath, ça c'est l'écomodernisme qui représente l'écomodernisme américain, où pareil, la décroissance vient ralentir la transition énergétique. Donc on a pas mal de choses, mais sur Twitter, c'est beaucoup plus équilibré sur le Twitter anglais où pour chaque attaque contre la décroissance, eh ben, il y a énormément de gens qui se mobilisent pour écrire des réponses. Alors que sur le français, c'est vrai que moi j'ai arrêté de taper décroissance sur le thread. Une fois par semaine, je tape degrowth en anglais pour analyser l'overview. Et je le fais depuis que j'ai Twitter depuis 2 ans. Et je prends des notes ou quoi. En français, je l'ai fait pendant 2 mois. Après, c'était trop déprimant, j'ai arrêté. C'était pas possible, il y avait aucun contenu. Alors qu'en anglais, quand même, les idées se sont développées un petit peu, enfin, au moins, il y a eu des interactions critiques beaucoup plus intéressantes. OK, donc moi, je vais vous présenter un petit travail que j'avais fait pendant ma thèse. C'est le chapitre 7, c'est le chapitre le plus long de la thèse. Ça s'appelait Controverse. La thèse est disponible en ligne pour ceux qui lisent l'anglais. Et à l'époque, en fait, ce chapitre, il n'existait pas quand j'ai commencé à écrire la thèse. Moi, naïvement, sur la décroissance, je voulais faire un travail théorique, voilà, normal. Mais je me suis retrouvé, en fait, avec une telle nuée de critiques que je me suis dit, en fait, c'est pas possible d'expliquer la décroissance sans prendre le temps d'explorer ces controverses. Et je me suis aussi rendu compte que l'une des richesses de la décroissance, et si on revient un petit peu à la décroissance comme mot au but, hein, comme disait Paul Ariès, c'est vraiment qu'elle crée des controverses. Donc au lieu de les ignorer, il faut vraiment les comprendre, les étudier, les cartographier et choisir en fait des controverses qui sont fertiles, qui font avancer le débat, qui nourrissent conceptuellement les idées, la discussion et le débat public, et les controverses qui viennent faire le contraire, c'est-à-dire des malentendus, des clichés destructeurs qui cherchent juste à balayer de la main une idée. Donc moi, dans ma thèse, j'avais fait cette division. Donc c'est pas Fleur, elle avait les malentendus et les clichés. Moi, j'avais fait les malentendus en haut. C'est en fait les personnes qui comprennent mal ce que c'est que la décroissance, soit consciemment parce qu'ils veulent mal la représenter pour la décrédibiliser, soit inconsciemment parce qu'ils n'ont juste jamais rien lu sur le sujet et qu'on leur demande d'écrire un article et ils le font. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc ça, c'est des malentendus. Donc là, j'en avais répertorié pas mal. Hein. Vous les avez vus, hein. La décroissance, c'est la récession, c'est rétrograde, c'est réactionnaire, c'est l'austérité, c'est l'ascétisme, c'est totalitaire, c'est sectarien, c'est survivaliste. On peut voir aussi que c'est compatible avec le capitalisme, hein, de temps en temps. C'est une apologie de la pauvreté, une romantisation de la vie dans les pays du Sud, technophobe, anti-science, hein, la fin de l'innovation. Donc dans la thèse, en fait, j'essayais de clarifier dans ce chapitre, c'est pour ça qu'il est très long, pour chaque malentendu, essayer de clarifier, de montrer que le concept de la décroissance que j'avais essayé de synthétiser dans la thèse ne correspondait pas à la façon dont il était décrit par ses critiques. Après, il y a quand même un certain nombre de critiques qui sont plus intéressantes, où ça, je pense que c'est des critiques valides. Par exemple, la question du nom, la sémantique, voilà, est-ce que c'est un nom qui attire ? Bon, ça, je pense que c'est une question intéressante à explorer. Pareil, aussi une critique des altermondialistes, hein, qui ont peur que la décroissance devienne un concept impérialiste, un petit peu comme le développement. Donc, des gens qui défendent un petit peu l'idée d'un pluriverse d'alternatives et qui voient la décroissance devenir un petit peu cool et se dire, c'est bizarre quand même de parler de décroissance dans le concept d'Amérique du Sud et en Europe et en Afrique et en Asie du Sud-Est. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu une répétition ? Donc là, discussion intéressante aussi, la décroissance où ? Quelle relation entre la décroissance et le buen vivir sud-américain, le lagom suédois, l'ubuntu africain, l'éco-soirage indien ? Il y a la question du financement des budgets publics, hein, la critique keynésienne. On ne peut pas se permettre de décroître dans un moment où on a besoin de financer les choses dont on a vraiment besoin, que ce soit l'expansion de l'infrastructure des énergies renouvelables ou juste les coûts de santé grandissants d'une population vieillissante. Donc ça aussi, hein, c'est des questions qui sont intéressantes, il ne faut pas les ignorer, il faut justement y aller et faire en sorte que ces discussions arrivent à nous faire avancer. Pas pour dans un esprit du service après-vente de la décroissance, hein, parce que ça n'a aucun intérêt de défendre un concept, mais plutôt dans un esprit d'enrichir notre vision de cette transition sociale et écologique, de penser à des choses qu'on n'avait pas pensées, la décroissance comme tout concept, comme la collapsologie, comme l'écosocialisme, comme l'économie du bonheur, à ses angles morts. Et je pense que c'est justement en les comparant concept après concept et en explorant ces controverses qu'on peut se rendre compte. Donc, je reviendrai un petit peu sur d'autres des critiques, hein, la critique féministe notamment qui s'est résolue. Parce qu'à l'époque, donc moi j'ai écrit ça, c'est des textes, des critiques qui datent de 2013, 2014, 2015. Depuis, il y a eu la création de la FADA, donc c'était en fait une fédération écoféministe qui s'est mêlée à la décroissance. Donc maintenant, c'est la décroissance écoféministe. Et donc, il y a eu une sorte de réconciliation de cette petite opposition conceptuelle au début entre l'écoféminisme et la décroissance, qui en fait était juste une contradiction à cause d'un malentendu. Et il y a d'autres critiques, hein, qui continuent, hein, la critique des écomarxistes, hein, j'y reviendrai avec des exemples. Alors, ce qui est intéressant et déprimant, c'est que les critiques de la décroissance, c'est toujours le même format. C'est des articles courts, très très courts. Hein. Je ne parle même pas d'articles en comparaison avec des articles de revues académiques. Hein. Même pour des articles de news, on parle de quelques paragraphes. Il n'y a jamais de références, il n'y a jamais de chiffres. Et la plupart du temps, je ne pense pas qu'on pourrait décrire ça comme des articles de qualité. Enfin, même objectivement, sans prendre en compte vraiment la direction du truc, ça fait article à la va-vite. Et je trouve ça bizarre parce que quand on compare ça avec les réponses ou les articles justement qui expliquent ce que c'est que la décroissance, là, c'est le contraire. Une manière simple, c'est de compter le nombre de références. Alors, c'est important quand même quand on parle d'écologie, d'effets sur les inégalités, d'effets sur l'emploi. Et on peut dire des choses, mais pour asseoir ces choses avec rigueur, il faut mobiliser les connaissances scientifiques sur le sujet. Les gens qui défendent la décroissance le font souvent, surtout, je pense, parce qu'ils sont entraînés à avoir cette espèce de défense de la contre-idéologie, donc ils arrivent super bien armés. Alors que les articles qui critiquent, la plupart du temps, ça balaye de la main. Voilà, la décroissance, c'est la misère. De toute façon, ils ne savent rien. En plus, ils sont pessimistes et ils n'ont pas lu les trucs d'économie. On ne cite même pas. Et ça, on pourrait penser que j'essaye moi-même ici de décrédibiliser les critiques de la décroissance. Moi, je suis le premier hein, à attendre, à valoriser les critiques vraiment de la décroissance. Il y en a des très bonnes. Hein. Jean-Marie Haribet, hein, l'un des premiers hein, qui a fait sa thèse sous la direction de Serge Latouche et qui, depuis l'époque, est en désaccord avec Serge et l'exprime très, très bien dans ses papiers. Il a pas changé d'avis, mais au moins, il a une critique bien construite et cette critique fait avancer le débat. Mais ça reste une minorité. Bon, les critiques, en fait, n'engagent jamais vraiment avec la littérature décroissante. Mais pourtant, la littérature décroissante, alors si on revient en 2007, il y avait 3 articles scientifiques. Alors là, c'est des articles en anglais, parce que la majorité de la littérature décroissante et de la discussion sur la décroissance aujourd'hui, ça se passe en anglais. Donc, il y en avait 3 en 2007. C'était ça, le domaine de la littérature. Alors que maintenant, il y en a plus de 500. On voit quand même que c'est un petit peu bizarre. C'est comme si moi, je venais critiquer, je ne sais pas, la croissance verte, sans faire référence, sans avoir lu aucun des articles qui parlent de croissance verte. Donc, c'est là où on vide le chargeur dans le noir, quoi. Donc ça, c'est un petit peu ça. Et il y a une quarantaine d'articles dans cette littérature académique où on trouve des critiques. La plupart du temps, les critiques les mieux construites, que ce soit celle d'Haribet, que ce soit celle de Stephen Quayle, de Robert Pollin, de David Schwartzman, de Ted Trainer, des gens comme ça, et ben ils ont publié en fait leurs articles dans des revues académiques, ce qui les force en fait à avoir des références, à avoir une structure, vu que bien sûr c'est revu par les pairs. Donc, moi, toujours, j'invite les critiques. Et ça, c'est un retour d'expérience. Je publie la thèse en mars 2020. Je me suis fait inviter à droite, à gauche. Après, j'ai fait plus de 130 événements. Je me retrouve confronté à énormément de gens, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont critiques de la décroissance. Moi, j'adore ça. Moi, le débat scientifique, c'est vraiment ma passion. Donc, vous voulez me faire changer d'avis, mais allez-y, quoi, avec grand plaisir. Quoi. Toute ma thèse est là. Vous avez une fenêtre sur mon cerveau avec toutes mes hypothèses orientées. Tous les chiffres sont là. Quoi. N'hésitez pas. Et je me suis dit quand même, là, ça va attirer la fureur de certains économistes et je vais me faire tabasser. Ben, j'attends toujours mon tabassage. J'ai été extrêmement déçu, en fait, par les critiques que la décroissance reçoit. Il y a vraiment une asymétrie entre l'effort qui vient du côté du développement d'idées et l'effort du côté de la critique de l'idée. Alors, pour alimenter le débat, moi, j'ai lancé mon blog en mars 2020 quand j'ai sorti la thèse et je me suis dit, je vais faire des réponses pour essayer justement de... Mon but, qu'est-ce que c'était à la base? C'était de se dire, la décroissance, ça devient populaire, ça crée une espèce de fenêtre d'opportunité pour rediscuter ces grandes questions fondamentales d'écologie politique. Les questions, c'est toujours les mêmes, hein, depuis les années 70, ça change un petit peu, bien sûr, mais c'est des questions fondamentales. Autant les discuter, mais de manière complexe, avec les connaissances disponibles dans la science et en dehors. Et donc, je me suis dit, dès que je vais voir des gens qui font soit des malentendus, soit des critiques, eh ben, je vais leur écrire un petit billet quoi, pour montrer qu'on peut discuter la décroissance en mobilisant une littérature scientifique, en étant ouvert aussi à la possibilité de changer d'avis pour essayer un petit peu d'évacuer cette idée de décroissance comme une mouvance purement idéologique, très sectaire et fermée d'esprit, montrer que la décroissance, en fait, le domaine d'idée de la décroissance, il a évolué. Voilà, justement, je viens de finir un chapitre dans mon livre qui sortira en septembre où je fais l'histoire de la décroissance de 1968, enfin des années 70 à 2022. Et on voit bien que ce n'est pas un concept monolithique. Il a absorbé d'autres concepts, il s'est scindé, il a développé des nouvelles dénotations. La décroissance des années 70 n'est pas la même que la décroissance du début des années 2000, n'est pas la même que la décroissance d'aujourd'hui. Mais très souvent, quand les gens critiquent, en fait, ils retombent à la dénotation un petit peu bébête des années 70, de la décroissance, c'est moins ou... Donc, ils ne prennent pas en compte en fait, l'émergence de toute une nébuleuse d'idées qui est venue renforcer le paradigme de la décroissance. J'ai eu des bonnes expériences dans le sens où certaines personnes ont répondu. Yanis Varoufakis, par exemple, alors typique Yanis Varoufakis, un économiste hétérodoxe, un marxiste, très critique du capitalisme, un allié vraiment dans cette lutte pour l'invention d'une économie post-capitaliste. Il se fait interroger dans un podcast, on lui demande ce qu'il pense de la décroissance, et là il dit « Ah, c'est pas le bon truc parce qu'il y a des choses qui doivent croître, machin ». Le classique, et donc moi je fais une petite réponse pour expliquer en quoi vraiment la vision de Varoufakis s'aligne avec la décroissance. Et il écrit une réponse après, il me contacte, et là je pense qu'on a créé une alliance à travers cette interaction. Pareil pour Matt Huber, hein, qui est un géographe marxiste, qui est très critique de la décroissance parce que justement la critique, c'est une approche personnaliste, trop portée sur la simplicité volontaire et la consommation, alors que lui, il a une approche plus structurelle et marxiste, où pour lui, l'écologie politique, c'est principalement un problème de production et de contrôle des moyens de production. Et donc, la solution, ce n'est pas la décroissance, c'est l'expropriation en fait, de ceux qui ont les propriétés des moyens de production. Donc là aussi, on peut voir que bon, y a des points de friction, mais ça va aussi généralement un petit peu dans la même direction. Nous, on appellerait ça peut-être de la démocratie économique, hein, qui demande une certaine redistribution radicale qu'on pourrait aussi appeler une expropriation de certains moyens de production aujourd'hui. Donc là, réponse, contre-réponse, discussion, on s'enrichit. Moi, c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une grande partie des écrits décroissants, héritiers d'approches un petit peu sobriété heureuse à la Pierre Rabhi. C'est une richesse d'ailleurs, c'est l'une des facettes de la décroissance qui s'est très concentrée sur l'approche spirituelle et personnelle. Malheureusement, certaines personnes en fait ont assimilé l'entièreté de la décroissance à juste ce petit aspect. Et c'est ça, quand j'expliquais un petit peu la croissance du concept, quand d'ajouter des dénotations un petit peu comme un plat de lasagne. En fait, quand on ajoute une dénotation, ça ne veut pas dire qu'il y en a une autre qui disparaît. Ça veut dire que ça devient de plus en plus complexe comme une boîte à outils. Peut-être juste un petit commentaire sur la post-croissance. Donc, post-croissance, vous en avez entendu parler. Pour moi, la post-croissance et décroissance, c'est la même chose. Hein. Conceptuellement, on peut faire du yoga théorique pour les articuler. Et moi, j'en ai fait dans ma thèse. Mais il y a des gens qui parlent de post-croissance en France, comme Dominique Méda, Aurore Laluc, Jean Gadret et Isabelle Cassier en Belgique. Et post-croissance à l'international, hein, Tim Jackson, Kate Raworth, Peter Victor au Canada, Juliette Shore aux États-Unis. Et là, en fait, c'est une controverse qui n'est pas très intéressante. Moi, je me suis retrouvé à débattre avec Aurore Laluc à Paris, là, il y a quelques mois. En fait, la critique qu'elle avait, c'était de se dire, oui, vous, dans la décroissance, vous n'avez pas lu, vous ne prenez pas en compte les travaux de Méda. Et certaines décroissants vont dire, oui, l'autre pareil, oui, Dominique Méda ne prend pas assez en compte les travaux de Nicolas Georges Courreguen, ou je ne sais pas quoi. Et on se perd un petit peu dans des discussions de traditions d'auteurs et de concepts et de théories. Donc moi, ce que j'essaie de faire là aujourd'hui, c'est en fait, il faut réconcilier un petit peu. Il y a des controverses avec des alliés où je pense qu'on peut réconcilier ces controverses pour créer des alliances théoriques. Il y a d'autres controverses où il faut tenir notre position parce que c'est des controverses en fait où si on lâche notre position, on perd un petit peu la force du concept. Je vais vous donner un exemple. Bruno Le Maire, classique. J'imagine que vous avez suivi le débat de Bruno Le Maire avec Delphine Bateau. Donc Bruno Le Maire, en fait, nous dit la décroissance, c'est un appauvrissement et un asservissement. Donc là, c'est des clichés classiques. Il le met comme ça, hein, la première objection de Bruno Le Maire, donc la pauvreté, appauvrissement des Français. Donc là, ce qui devrait sauter aux yeux, enfin moi, c'est la façon dont je le vois, c'est d'une manière peut-être très analytique ou académique, mais en fait, on parle d'appauvrissement, on parle de pauvreté sans avoir défini ce que c'était que la richesse. Donc moi, la façon dont j'ai répondu à ça dans l'article, c'est juste de détailler que le PIB n'est pas une mesure de la richesse. Ça, vous pouvez construire un petit peu sur les limites du PIB, on les connaît. Même un économiste qui calcule le PIB, le PIB, on sait que ce n'est pas un stock, donc ce n'est pas vraiment une richesse, c'est un flux. Donc là, ça ajoute une petite subtilité. Et bien sûr, facile de montrer maintenant avec les travaux de Piketty, que vu que c'est un flux qui est inégalement réparti. Donc là, il y a déjà trois angles d'entrée pour arriver à montrer que cette petite critique comme ça, elle ne va pas très très loin. Pareil sur l'argument de la liberté. Et Fleur le disait, enfin, dans le corpus décroissant, on a dû, enfin, les auteurs depuis Gortz des années 70, ont bien sûr dû se poser la question de définir la liberté, la justice, la violence, la démocratie, tous ces grands concepts. Donc, dans notre boîte à outils, en fait, on a largement de quoi faire. Là, la décroissance sur la liberté, moi, j'avais rebondi un petit peu sur l'aviation, parce que là, je trouvais ça aussi un petit peu bizarre de dire, voilà, oui, c'est les riches qui vont pouvoir prendre l'avion et les pauvres vont plus prendre l'avion dans un pays où, déjà, les pauvres ne prennent pas l'avion. Donc là, encore une fois, c'est bizarre parce que scientifiquement, ça part d'un désaccord en fait pseudo-chiffré pour donner une sorte d'apparence scientifique, mais qui n'a pas vraiment de cohérence interne. Voilà, par exemple, pour revenir à l'exemple de l'aviation, en France, la moitié des vols, c'est 2% de la population et 2% des plus aisés. La plupart des gens en France n'ont jamais pris l'avion. Et pareil, après, si on regarde les vols, c'est extrêmement concentré sur ceux qui prennent plus de 6 fois l'avion. Donc là, on voit dans la tradition de l'écologie politique, quand on parle de décroissance de l'aviation, l'aspect inégalité est super important. Et là, dans ces critiques, donc là, il faut ouvrir un petit peu, connecter liberté et égalité. Et je pense à chaque fois qu'on reçoit une critique comme ça, un peu simpliste, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le blog, on peut répondre avec complexité pour montrer justement que le cadre d'analyse de la décroissance, il nous permet d'enrichir cette question. Par exemple, Patrick Artus, là, il n'y a pas longtemps, il a publié un papier vraiment très drôle. Enfin, je l'ai lu, un papier, il fait 4 pages, hein. Moi, c'est plus un tweet. Je suis presque tombé de ma chaise parce qu'il explique, ah oui, la décroissance, ok, mais il y a 2 décroissances, une désirable et une indésirable. La décroissance indésirable, c'est celle qui réduit le PIB. La décroissance désirable, c'est celle où, en fait, où on vient réduire la consommation pour augmenter l'investissement. Parce que vous savez, en macroéconomie, quand vous avez de l'argent, soit vous le consommez, soit vous l'investissez. C'est des égalités. Donc là, on voit vraiment que le cadre d'analyse en fait, des économistes, et surtout des économistes mainstream, c'est un outil primaire complètement obsolète pour penser la transition. Donc nous, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de la manière dont on répond, de montrer que maintenant, en fait, il y a des outils en économie féministe, en économie marxienne, en économie écologique, en écologie politique en général, en anthropologie critique, en critique de la nationalité, enfin de la comptabilité nationale, énormément de nouveaux domaines d'études, en fait, qui se sont saisis du concept de décroissance et qui l'ont enrichi, et que nous, on peut justement mobiliser, parce que notre boîte à outils est gigantesque, pour arriver à montrer que ce paradigme peut nous aider, en fait, à mieux comprendre le réel et donc à mieux le transformer. Je finis là-dessus, parce que ça, c'est quand même l'une de mes spécialités. On m'invite très souvent pour parler croissance verte et découplage, et de temps en temps, voilà, on fait ça sous forme de débat. Donc là, en décembre, j'étais invité, par exemple, pour débattre avec Éric Chanet, hein, de l'Institut Montaigne. Donc, c'était l'économiste en chef de AXA, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est une pointure, on va dire, en économie, on pourrait le considérer comme tel. En tout cas, c'est la façon dont il a été présenté à cet événement. Et moi, comme voilà, le petit Maverick qui arrive avec sa petite thèse qui explique farfelue entre la sorcellerie et le spiritisme, à moitié théorie du complot. Et donc, moi, j'avais un petit peu peur allant à ce débat. J'ai préparé, je me suis dit, bon, quand même, bon, c'est quelqu'un qui est économiste depuis les années 80. Et en fait, je me suis retrouvé né à quelqu'un qui ne lit pas les études empiriques sur le sujet, qui avait des slides très, très vagues sur les théories des modèles économiques du début de la macroéconomie des années 90, des réflexions vagues sur le progrès technologique. Alors, moi, de mon côté, voilà, j'avais les 900 études empiriques sur le découplage qui ont été faites depuis les années 90, donc une vue exhaustive de tous les chiffres qu'on a sur la planète sur la croissance verte, plus voilà, des cadres conceptuels me permettant de définir quel découplage, quel degré de découplage touche ces choses-là, des chiffres pour la France, dont des chiffres qui étaient publiés deux jours d'avant. Donc là, je me suis vraiment rendu compte en fait, que la plupart des critiques, elles ne tiennent pas debout. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur vraiment de rentrer dedans dans le sens où il y a souvent des arguments d'autorité où vous allez entendre « oui, bah, vous n'êtes pas économiste, oui, bah, écoutez, vous ne savez pas lire un modèle, donc ça ne sert à rien d'en parler ». Moi, je vous dis, j'ai passé énormément de temps à décortiquer des modèles économiques, à lire des papiers sur le découplage, et autant vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir, c'est mal écrit, c'est très dur à comprendre. Et à la fin, on se rend compte que c'est du vent. Sur la question du découplage, là, c'est du vent absolu. On se rend compte, en fait, que cette idée de « oui, on va verdir la croissance », là, à chaque étude qui tombe, en fait, elle montre qu'on l'a, même ce qu'on pensait qu'on avait verdi, ce qui était déjà presque rien, en fait, c'était moitié moins, et moitié moins, et moitié moins, et moitié moins. Donc là, je pense que ça montre bien que cette espèce de discours un petit peu insultant, qui n'est pas référencé, qui n'est pas rigoureux, qui est simplement organisé autour d'une prestance d'autorité, il a ralenti la popularisation de ces idées et il a ralenti la transition écologique en général parce que ça fait 20 ans qu'on attend une croissance verte qui est théoriquement impossible et empiriquement qui n'a jamais existé. Et je dis théoriquement impossible parce que là, avec Noah Smith, sur les données empiriques, là maintenant, c'est très facile. Personne, mais personne n'oserait vous dire que la croissance verte a déjà existé ou sinon vraiment, c'est très facile de regarder mes travaux, de les enterrer 6 pieds sous terre. Mais certains essaient encore de dire que oui, théoriquement, on peut. Mais alors, là, ensuite, quand on leur demande les hypothèses derrière les modèles et les théories qu'ils utilisent, là, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà, je m'arrête là parce que comme ça, on utilise le reste du temps.
Merci, Timothée, pour ta présentation et la manière dont tu as pu apprécier la littérature aussi sur le sujet est assez précieuse dans le sens où tu nous as présenté pas forcément les éléments de réponse à la décroissance, mais les mécanismes de construction des réponses et le contre-pied aussi que tu peux avoir lorsque tu crées le débat par rapport à des injonctions qui peuvent être simples, rapide, très très courte, des objecteurs à la décroissance et qui, pour la plupart des cas, repose sur, je dirais, des phrases choc ou obus pour lesquelles il manque des fondements, des définitions et des approches très factuelles.